Nous en sommes au premier jour de la retraite de décembre 2022 à l'ermitage Sainte-Croix, près de Montréal. Au cours de cette retraite, j'aimerais lire et commenter le Koan 19 du Mumon Kan. L'esprit ordinaire, c'est la voie. M. Lowe disait que ce Koan traduisait parfaitement l'esprit de la pratique au Centre Zen de Montréal. Nous verrons peu à peu pourquoi il disait cela. Je vais d'abord lire le Koan tel qu'il a été traduit par Monique Dumont dans le livre « Je ne suis pas un être humain » de M. Lowe. Joshua demanda à Nansen, « Qu'est-ce que la voie ?» Nansen répondit, « La voie, c'est l'esprit ordinaire. » Joshua, « Comment peut-on y accéder ?» Nansen, « Plus tu cherches à l'atteindre, plus tu t'en éloignes. » Joshua, « Mais si je ne cherche pas, comment pourrais-je savoir si c'est la voie ?» Nansen, la voie n'est pas du ressort du savoir, ni du non-savoir. Le savoir est illusion et le non-savoir est absence de discernement. La voie est comme l'espace vaste. Comment pourrait-il être question de ceci ou cela, être et non-être? À ces mots, Joshua s'éveilla soudain. Et le commentaire de Maître Mumon. Joshua interroge Nansen, qui l'éclaire. Mais même si la glace est fondue, le conduit demeure bouché. Même si Joshua a atteint l'éveil, il a dû continuer à l'approfondir pendant 30 ans avant de le réaliser complètement. Et le poème de Mumon, au printemps des fleurs, en automne la lune, en été le vent frais, en hiver, la neige. Si l'esprit n'est pas encombré de choses inutiles, c'est la meilleure saison de l'humain. Commençons par dire quelques mots au sujet de Nansen et de Joshua. Nansen vécut en Chine de 748 à 834 et eut pour maître Basso. Il fut ordonné moine à l'âge de 30 ans et étudia longuement la philosophie bouddhiste et les diverses pratiques du Shan chinois qui deviendra des siècles plus tard le Zen japonais. L'un des accomplissements de Nansen fut de ramener sur terre, pour ainsi dire, les enseignements philosophiques du bouddhisme indien qui paraissaient alors obscurs et étrangers à la pensée chinoise, nettement plus terre-à-terre et soucieuse de la vie quotidienne. Nansen fut le maître de Joshua pendant plus de 30 ans, jusqu'à son décès en 834. Le Koan que nous étudions, l'esprit ordinaire, c'est la voie, fait le récit de leur première rencontre. De son côté, Joshua, qui vécut de 778 à 898, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 120 ans, est lui aussi considéré comme l'un des grands maîtres du Shan chinois et par extension du Zen. Au moment où il rencontra pour la première fois Nansen, il était âgé d'environ 20 ans. Jusque-là, Joshua avait étudié la philosophie bouddhiste dans les écoles du nord de la Chine. Mais déçu de ne pas y trouver la vérité qu'il cherchait, il avait abandonné ses études, quitté sa région natale et entrepris un long voyage pour rejoindre le sud de la Chine, où, disait-on, les maîtres du Shan chinois enseignaient que tous les êtres humains pouvaient réaliser leur véritable nature de Bouddha dans cette vie même. Pour bien saisir le Koan que nous allons étudier aujourd'hui et au cours des prochains jours, il faut entrer dans l'esprit du jeune Joshua. Il a 20 ans et il a laissé derrière lui tout ce qui jusque-là a constitué sa vie, ses études, sa famille, ses amis. Il a laissé tout cela pour s'engager seul dans un long périple vers le sud de la Chine, avec l'espoir d'y rencontrer des maîtres spirituels qui pourront l'éclairer. Que cherche-t-il? L'on peut facilement imaginer les rigueurs de son voyage. Nous sommes au 8e siècle en Chine. L'on y voyage presque toujours à pied, que ce soit sous la pluie, le soleil ardent ou encore dans le froid vif de l'aube. On dort où l'on peut, dans de modestes abris ou à la belle étoile. Les chemins sont souvent défoncés et escarpés. L'on doit franchir des ponts suspendus au-dessus de gorges profondes dans les montagnes. Et nos seuls compagnons et compagnes de route sont la peur, la solitude, la faim et l'insomnie. Est-ce là ce que Joshua a vécu? Qu'il sait vraiment. Mais il est venu de très loin. Pourquoi? Que cherche-t-il? Il a tout laissé derrière lui et voyagé sans relâche vers le sud, où, dit-on, des maîtres spirituels pourront l'éclairer. Mais que cherche Joshua? Parvenu au terme de son voyage, il se tient devant Maître Nansen. Et quand il se met à parler, il dit simplement « Qu'est-ce que la foi ?» Voilà ce que Joshua n'a pas trouvé jusque-là dans sa vie. Qu'est-ce que la foi ? Il n'a pas d'autre question. Il la dépose aux pieds de Nansen. Jusque-là, on peut penser que le monde a été une terre d'exil pour le jeune moine. Une terre où il a erré, assoiffé de vérité, cherchant sa propre maison, un endroit où il pourrait dire « Je suis chez moi ». Mais il ne l'a pas trouvé nulle part. Il lui reste sa question. Quel chemin dois-je suivre pour rentrer chez moi? Cela me rappelle une autre histoire, celle de l'un de mes compagnons de pratique au Centre Zen de Montréal. Avant de s'engager dans le zen et complètement dérouté quant à l'orientation de sa vie personnelle et professionnelle, il s'était rendu en France, dans l'Auvergne plus précisément, une région du centre de la France, afin d'y rencontrer Arnaud Desjardins. Ce dernier, qui fut l'auteur de nombreux livres sur la spiritualité de l'Inde et de l'Orient, avait étudié auprès d'un maître indien, Swami Prajnanpad, et obtenu de lui l'autorisation d'ouvrir un centre en France, où il pourrait à son tour guider des personnes dans leur recherche spirituelle. Mon ami, après avoir lu les livres d'Arnaud Desjardins et désespéré devant sa propre vie, avait sur un coup de tête pris la décision de partir à sa rencontre. Que croyez-vous qu'il espérait? Il n'avait averti personne de sa venue, ne savait pas précisément où se trouvait le centre qu'il cherchait, ni évidemment comment s'y rendre. Il voyageait comme un aveugle, ne sachant trop où il allait, mais avec la conviction profonde qu'il devait s'y rendre. Il finit par trouver l'endroit. Il me raconta être arrivé à pied sous un soleil de plomb, sans vraiment savoir ce qu'il venait chercher. Il toqua à la porte du Bost, qui était le nom du centre spirituel où il arrivait. Quelqu'un lui répondit. Il demanda à voir Arnaud Desjardins et se fit répondre que ce dernier était en déplacement pour quelques semaines à l'étranger, où il animait des retraites. Mon compagnon n'insista pas. Il revint au pays et quelques semaines plus tard, il vint frapper à la porte du centre zen de Montréal, où il put rencontrer M. Lowe pour la première fois. Il lui parla de sa désorientation personnelle et professionnelle, de son découragement profond face à sa propre vie, et lui raconta son périple en France. Après l'avoir écouté, Albert lui demanda pourquoi il s'était rendu en France et ce qu'il attendait de sa rencontre avec Arnaud Desjardins. Et mon ami ne put que bafouiller, incapable de répondre, sachant confusément que quoi qu'il dise, il n'arriverait jamais à trouver les mots justes pour dire ce que c'était. Il savait que c'était là quelque part en lui, mais ne connaissait pas les mots pour le dire. Joshua, lui, demanda à Nansen, « Qu'est-ce que la voix ?»« Que cherche vraiment Joshua ? Que lui manque-t-il ? Que croit-il trouver auprès de Maître Nansen ?» On dirait toujours que quelque chose manque, n'est-ce pas ? L'on est souvent inquiet de ne pas le trouver, de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et l'on a beau avoir réussi sa vie, comme on le dit parfois, l'idée nous vient qu'il y a sûrement plus que cela. Le titre d'une chanson américaine des années 60 traduit bien ce sentiment. « Is that all there is? » Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Dans cette vie même, ici même, là où nous sommes, vous et moi, est-ce tout ce qu'il y a? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Peut-être pas avec ces mots, mais avec d'autres mots, les vôtres. Vous connaissez tous l'histoire du jeune prince Shakyamuni, qui, à l'âge de 27 ans, quitta le palais de son père, où il avait jusque-là vécu toute sa vie, pour s'en aller comme un moine errant sur les routes poussiéreuses de l'Inde. Pourquoi quitter ainsi la richesse, le confort, une vie d'aisance et de luxe, laisser derrière lui son épouse et son fils, abandonner l'héritage de son père? La tradition raconte que depuis sa naissance, Siddhartha n'avait jamais quitté le palais de son père. Lorsqu'il était venu au monde, un devin avait prédit à ce dernier que son nouveau fils deviendrait un jour soit un grand prince, soit un pauvre moine errant. Le père, soucieux d'éviter à son fils une vie d'errance et de pauvreté, prit donc la décision d'isoler son fils dans l'enceinte du palais afin de le protéger d'un sort aussi funeste. Il lui procura tous les plaisirs qui pouvaient s'acheter, lui épargna tous les soucis de l'existence et l'éduqua de telle sorte qu'il puisse un jour lui succéder à la tête de la tribu des Chakyas et devenir à son tour un souverain éclair. L'histoire nous dit cependant que Siddhartha en vint à se sentir prisonnier de tous ses plaisirs et voulut connaître la vie de ceux et celles qui vivaient à l'extérieur du palais. Il fit venir son cocher et dans le plus grand secret, ils quittèrent ensemble le palais. Ils rencontrèrent d'abord un homme malade, puis un vieillard, et enfin, un cadavre. Jusque-là, au palais de son père, on lui avait soigneusement épargné les misères de la vie humaine, et il n'avait jamais connu ni la maladie, la vieillesse ou la mort. Il en fut profondément terrifié. C'était donc là ce qui attendait tous les êtres vivants. Siddhartha comprit pour la première fois que la maladie, le vieillissement et la mort étaient des compagnons qui ne nous quittaient jamais dans cette vie. Et ce sont ses compagnons eux-mêmes qui lui montrèrent le chemin et le lancèrent sur les routes de sa propre libération. Comme l'écrit M. Lowe dans l'un de ses livres, et je cite, « Chacun de nous connaît bien ses fidèles compagnons qui nous accompagnent partout, le matin au déjeuner, en nous rendant au travail, en écoutant la télévision, au lit la nuit. Ils sont là, patients, mais toujours présents. Un cancer, un infarctus, un AVC, une auto qui dérape, une fuite de gaz, un incendie, une échelle mal appuyée. Et ils ne portent pas toujours les lourds habits de la guerre, de la famine ou de la mort. Nous ne pouvons jamais leur échapper, et le jour viendra où ils seront là. » Fin de citation. Et comme il le dit ailleurs, se pourrait-il que nos espoirs, nos rêves et tout le reste viennent masquer notre peur profonde d'être perdus en exil, loin de notre foyer. L'incertitude, l'impermanence et le sentiment qu'il manque quelque chose. Est-ce là ce qui nous a guidés jusqu'ici aujourd'hui, sur cette natte, dans cet ermitage où nous sommes en retraite? Comme Joshua qui rencontre Nansen au terme de son long voyage, se pourrait-il que nous aussi, nous cherchions quelque chose qui apaisera nos craintes, nos peurs et tous nos doutes, quelque chose qui fera disparaître l'insécurité et balayera l'incertitude hors de notre vie. Une vérité inébranlable, définitive, solide comme un roc. Quelque chose qui nous libérera enfin de ce sentiment profond qu'il manque quelque chose dans notre vie. Lorsque l'on rencontre un maître spirituel, qu'il s'agisse d'un maître chrétien, soufi ou zen, cela importe peu, l'on espère recevoir des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Comme si l'on était assoiffé, l'on espère que l'eau coulera des mains du Maître et que notre soif sera étanchée. On attend des mots de réconfort et d'apaisement. Mais que peut dire un Maître? Les maîtres Zen Rinzai et Tokusan avaient l'habitude de frapper leurs étudiants avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Le maître Gutei levait l'index en réponse aux questions qu'on lui adressait. Le Bouddha leva un jour une fleur en guise de serment. Ryutan souffla une chandelle. Joshua lui-même répondit à un moine qui l'interrogeait sur son enseignement. « Lave ton bol. » Que peut dire un maître à celui ou celle qui, avec un cœur sincère, est venu de loin? Que peut-il lui donner pour apaiser sa soif? Joshua a demandé, « Qu'est-ce que la voix? » Il aurait pu dire, « Maître, comment puis-je me libérer? » Percevant bien le désespoir de Joshua et son immense désir de trouver enfin une réponse inébranlable et définitive à sa seule question, Nansen lui répondit, « La voix, c'est l'esprit ordinaire.